J'aimerais pas être une fille parce qu'on est souvent, on est traité comme une boniche, on doit faire la vaisselle.
Puis alors, je trouve qu'il y a encore un culot, c'est les hommes qui nous donnent du travail, quelquefois ils ont encore le toupet pour nous donner autant de, je sais pas comment on dit, paye ou gain, je sais pas quoi, d'argent pour le travail qu'un homme peut-être ferait même moins bien.
T'es pas d'accord avec l'idée qu'ils ont du mariage?
Non, parce qu'on est quand même pas les chiens.
Pour ma part, eh bien, c'est pas du tout comme les autres. J'aimerais bien être un garçon parce que je déteste les robes et j'aime bien les pantalons.
Quand on dit qu'un homme peut voter, une femme ne peut pas.
Ah non, ça c'est injuste alors. Oui, il faut qu'aussi les demoiselles peuvent dire leur nom aussi. Parce que si les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, les dames, c'est comme si elles comptaient pour rien.
Est-ce qu'il t'arrive parfois de regretter de ne pas être une fille?
Quelquefois, ouais, un petit peu.
Pourquoi?
Parce que quand je pense qu'on doit aller au service militaire, je sais pas, puis qu'on nous oblige à y aller.
Moi, personnellement, j'aimerais pas tellement être une fille. Enfin, si je l'étais, j'aimerais pas être un garçon.
Et bienvenue, chatounette, chatounet, dans ce bar à chatte du mois d'avril, où, donc, pour rester fidèle à ce qu'on a mis en place lors de la dernière émission, on a décidé de faire un peu ce qui nous plaisait en générique. D'ici à ce qu'on ait un nouveau générique que...
Voilà, ça oblige aux auditeurs à être attentifs.
Exactement, et puis voilà, on tombe sur plein de petites perles comme ce son que vous venez d'entendre, qui sont donc des paroles d'enfants, qui sont des archives de la radio-télévision suisse dans les années 70, d'où l'accent. Bienvenue, Félix Potin. Comment ça va?
Pas trop mal, et toi?
Ça va, hyper bien. Voilà. Moi, j'ai trop la patate.
Trop la patate. Et notre ami Clément,
oui,
il va comment?
Tout à fait.
Oui, ça va plutôt pas mal. Oui,
ah,
oui.
Super.
Bon, alors si on va tous bien.
Génial, on va faire une belle émission.
Tout à fait. Un petit tour d'horizon rapido de ce qu'on va aborder ce soir.
Alors, moi j'ai envie d'aborder un thème qui me tient à cœur, mais je suis restée un peu en surface parce que c'est un thème un peu plombant. Donc, il s'agit des violences sexuelles sur les femmes handicapées.
Très bien. Effectivement, ça va être...
Ça va être chaud.
Ouais, tout à fait. Et moi, je vais vous parler de la galanterie.
Ah ben voilà, ça se complète. Hein.
Ah oui, ça. Oui, parce que ça... Enfin, on va voir que... Enfin, je ne vais pas le développer, mais si on allait plus loin dans ce processus, ce principe de galanterie, on pourrait voir ce que ça peut amener derrière aussi comme rapport de domination. Et enfin, qui dit domination peut engendrer des violences par derrière.
Tout donc, à fait. Ouais.
Et alors pour commencer, alors sans aucun lien avec tout ce qu'on vient de dire, donc juste pour lancer l'émission et avoir une petite brève, ça m'a beaucoup plu de décerner un étron de bronze l'autre fois à Dadju là, pour sa chanson. Donc là, j'ai décidé de décerner un étron d'or cette fois-ci, il est beau quand même. Alors pour l'application Grossesse Plus, alors c'est pas du tout une annonce, hein. Voilà, j'ai des collègues actuellement qui sont enceintes et j'ai vu passer ça. Donc c'est une application de suivi de grossesse sur smartphone qui vous délivre quotidiennement des conseils. Et donc la semaine dernière, une collègue s'est vue recevoir ce conseil-là. Odeur vaginale pendant la grossesse, point d'interrogation. Nous savons ce que vous vous dites, burk, n'est-ce pas? Vous voilà enceinte, belle, radieuse et malodorante. Vous saviez que la grossesse changerait beaucoup de choses, mais vous ne vous étiez pas préparée pour cet effet indésirable, particulièrement désagréable, l'odeur vaginale. Qui plus est, à chaque fois que vous allez à un rendez-vous de suivi de grossesse, non seulement vous devez accepter d'être manipulée, étudiée et piquée, mais en plus vous êtes inquiète à l'idée que votre médecin s'évanouisse à cause de votre odeur vaginale.
C'est
quand même fantastique. Donc là, moi, je lui dis, mais oui, enfin, comment se fait-ce qu'un vagin sente le vagin? Une bite sent-elle la bite, franchement? Il semblerait que non, au vu de ce cas très épineux d'odeur vaginale. Enfin, surtout pour le pauvre médecin qui nous ausculte.
Enfin, c'est quand même grave de généraliser quelque chose qui doit arriver peut-être à une poignée. Encore,
oui, puis, avec puis les termes indésirables, désagréables. Donc voilà, c'était le petit étron d'or. Ouais. Et du coup, j'en profite, puisqu'on parlait de grossesse, pour faire de gros bisous et un gros soutien d'encouragement et un coucou au vagin des copines qui vont bientôt accoucher, parce qu'il y en a une sacrée palanquée cette année. Et vous dire que pour vous, les mecs, quand même, ça craint grave, parce qu'il n'y a que des petites meufs de prévues cette année. Alors moi, je dis tout ça, ça va se finir façon parthénogenèse, style Jurassic Park, voilà.
Désolé, non, non, les non, mecs, non, quoi. Peut-être un début de matriarcat, enfin.
Félice.
Eh bien, c'était très intéressant. Je vois qu'on trouve de tout sur Internet.
On trouve de trop, je dirais même.
Donc voilà, donc je disais que moi je vais aller vous parler un petit peu des violences sexuelles et sexistes faites aux femmes handicapées. Donc j'ai été un petit peu chercher sur Internet des papiers de journaux en ligne ou de journaux papier. Donc voilà ce que ça donne. Donc en octobre 2015, Myriam Chaplin-Rioux de l'APF a écrit dans Faire Face, qui est un magazine qui parle de handicap pour les handicapés. Donc, les femmes handicapées sont plus que les autres victimes de violences. La psychanalyste Maudie Pio, malvoyante, présidente de l'association Femmes pour dire, Femmes pour agir, la FDFA, dit, elle, c'est une double discrimination, une femme, être femme et handicapée. 4 femmes handicapées sur 5 subissent des violences sexuelles, physiques ou psychologiques, souvent dans le huis clos du domicile ou des institutions. Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, précise « Les violences passent par toutes sortes d'abus perpétrés par une grande diversité de personnes, soignants, aidants, familles, étrangers. » La FDFA a mis en place un numéro d'urgence pour entendre la parole des victimes. Je le donne tout de suite, c'est le 01 40 47 06 06. Et souhaite diffuser largement un court-métrage bouleversant en 8 séquences qui s'intitule « Violence du silence » pour faire connaître ces maltraitances. On voit ainsi une personne privée de son fauteuil puis subir des sévices physiques ou sexuels. La lutte contre les violences envers les femmes doit prendre en compte le handicap comme facteur aggravant. Les rares études existantes pointent un risque accru de violence pour les femmes et les filles handicapées. Il est nécessaire d'apporter une éducation à la sexualité aux personnes handicapées.
Violence du silence, d'après des histoires vraies. Film produit par l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, FDFA. Karima, avec la voix de Stéphanie Duncan.
Tu pourrais remettre bien ton micro, s'il te plaît, Félix Potin.
Une jeune femme posée dans un fauteuil roulant regarde la télévision. Il pleut dehors.
Je m'appelle Karima, j'ai presque 19 ans. Je suis handicapée. Je marche très difficilement, je vois très mal et j'entends mal. Je n'ai jamais retenu le nom de cette maladie. Je vivais chez mes parents, mais ils ne s'occupaient pas de moi. D'ailleurs, personne ne s'occupait de moi. Je restais toute la journée dans mon fauteuil, posée devant la télé ou dans ma chambre, à ne rien faire. Mon père répétait à qui voulait l'entendre qu'avec moi, le mauvais œil s'était abattu sur la famille, que j'aurais mieux fait de crever à la naissance. J'aimais bien manger, mais on me privait de nourriture pour peser moins lourd quand mes frères me portaient pour sortir. Je suis partie pour 3 mois au bled avec mon père. Tout le monde a été très attentif. Toutes et tous se sont beaucoup occupés de moi. Tous les jours, j'étais lavée, parfumée. Je me sentais comme une petite reine, persuadée d'être belle. La contrepartie, tous les jours, les hommes de la famille, cousins, neveux, oncles, frères, me faisaient l'amour, comme ils disaient. En fait, ils me violaient. C'était dur, j'avais mal. On a appris aux plus jeunes comment faire. J'ai beaucoup pleuré. Je n'avais plus la sensation d'exister. Mais je devais faire semblant. Semblant d'avoir du plaisir. Semblant d'aimer ça. Même si c'était dur. Même si ça faisait mal. Sinon, ils m'injuriaient. Salope. Connasse. Me giflaient. 3 mois. Mon retour en France fut dur. Aujourd'hui, j'ai envie de mourir.
Claudine Colosi, journaliste pour Société, en 2017, disait « Le 25 novembre dernier, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, dans un contexte de libération de la parole des femmes au sujet des violences sexuelles et sexistes, il a été question et il était grand temps de rappeler que les femmes en situation de handicap subissent aussi régulièrement ce type d'agression. À l'image de beaucoup d'autres témoignages, celui de Christelle en situation de handicap fait froid dans le dos. Le 22 novembre, sur BFM BFM TV. Elle est la deuxième femme à porter plainte contre l'islamologue suisse Tariq Ramadan pour violence sexuelle. D'après son témoignage, ce monsieur aurait donné un coup dans sa béquille pour la faire tomber, puis il l'aurait récupérée par les cheveux et avant que l'enfer commence. Chronique ordinaire des violences sexuelles insupportables qui n'épargne pas les plus vulnérables. Depuis les premières révélations dans l'affaire Weinstein, à l'apparition des hashtags balance ton porc ou MeToo, on a assisté à un phénomène sans précédent. Des victimes silencieuses jusque-là ont décidé de parler. Les femmes en situation de handicap commencent elles aussi à oser se faire entendre. Isabelle Dumont de la FDFA explique « Depuis quelques semaines, nous avons constaté une recrudescence de sollicitations. Les femmes en situation de handicap sont portées elles aussi par le mouvement et trouvent le courage de décrocher leur téléphone. Une démarche encore moins facile à entreprendre quand on est dépendante d'un proche violent. » Dans notre beau pays, 3 millions de femmes ont subi ou subissent du harcèlement sexuel au travail. 1500 femmes sont victimes d'agressions sexuelles chaque jour et plus de 200 sont violées, dans 90% des cas, par une personne de leur entourage. Chaque année, plus de 100 femmes meurent sous les coups de leur compagnon ou ex. Les femmes en situation de handicap n'échappent pas à ces statistiques. La militante féministe Caroline de Haas a lancé une pétition pour inciter Macron à décréter un plan d'urgence contre les violences sexuelles. Parmi les propositions, le doublement immédiat des subventions aux associations accueillant les femmes au téléphone ou physiquement et du nombre de places d'accueil pour les femmes victimes. Se pose alors la problématique de l'accessibilité de ces centres d'hébergement. Dans Libération du 25 novembre 2016, Elsa Modet rapporte que la surreprésentation des violences envers les femmes handicapées est une réalité. Selon l'ONU, plus de la moitié des femmes handicapées d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Australie sont victimes de maltraitance, contre un tiers des femmes valides. Et dans un rapport publié en 2014, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne révélait entre autres que 34% des femmes handicapées avaient subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire contre 19% des femmes valides. Ça parle.
Maman est folle, on n'y peut rien.
Alors, j'ai pas précisé tout à l'heure que dans cet énorme pourcentage de femmes handicapées qui étaient maltraitées, abusées, violées de toutes les façons possibles et imaginables, il y a effectivement énormément de handicaps intellectuels qui sont concernés. Évidemment, moins il y a de facilité de se défendre, plus il y a d'abus, quoi. Et donc, j'ai passé William Scheller parce que je trouve que c'est une très belle chanson d'amour. Et j'avais envie de la mettre là. Donc je vais continuer sur ma lancée puisque je ne m'arrête pas là. Donc après ce terrible constat que je fais sur pour la vie des femmes handicapées, je me dis finalement, si cette violence est aussi répandue chez les adultes, qu'en est-il du monde de l'enfance handicapée ? Donc là, on va pas parler exclusivement de violences sexuelles, mais de violences de tout style. Donc en 2016, sur Exceptional Children d'Université du Missouri, un article révèle que les enfants et adolescents en situation de handicap se font le plus souvent et le plus longtemps harceler par leurs petits et grands camarades, et ce tout au long de leur scolarité. Donc deux experts en éducation spécialisée, Chad A. Rose et Nicolas Ace Cage, alors j'ai vérifié, c'est un autre Nicolas Cage, des universités du Missouri donc, et de Floride, ont étudié en 3 ans 6531 enfants et adolescents scolarisés de 8 à 18 ans. Donc 16% d'entre eux sont dans une situation de handicap et ce sont eux donc qui se font le plus souvent et le plus longtemps harcelés par leurs camarades. Alors que le harcèlement a tendance à diminuer avec l'avancée de la scolarité, on observe que ça ne s'applique pas du tout aux enfants et adolescents en situation de handicap, chez qui l'âge n'est pas une protection contre les brimades. Selon les chercheurs, ces résultats laissent entendre que contrairement aux enfants valides, ceux en situation de handicap n'acquièrent pas d'aptitude sociale pour tenir tête à leurs assaillants. Ces recherches soulignent la nécessité de mettre l'accent sur l'enseignement de compétences adéquates pour que les enfants en situation de handicap, précise Rose, et les écoles doivent développer les programmes en mettant en œuvre les objectifs de développement social pour chaque élève, afin d'être sûr qu'il apprenne les bonnes aptitudes sociales qui le protégeront contre le harcèlement. Ouais. Ça, moi, perso, ça me paraît un vœu pieux. Mais bon, ce qui me fait surtout froid dans le dos, c'est que, en fait, ces deux chercheurs appuient sur une éducation spéciale des enfants handicapés parce qu'ils affirment que les enfants en situation de handicap risquent de réagir au harcèlement avec agressivité, ce qui augmente la gravité des persécutions et des traumatismes associés, mais aussi le risque de basculer soi-même. Apprendre aux enfants à mieux communiquer entre eux et avec leurs enseignants peut les aider à réagir plus positivement aux persécutions, mais aussi d'en diminuer la fréquence au cours du temps. Donc en fait, ils préconisent d'agir sur les enfants handicapés afin qu'ils supportent mieux les saletés et les sales coups qu'on leur fait subir, dans l'hypothèse tout à fait hypothétique que ça désarme les agresseurs. Enfin bon, moi, une éducation commune, je trouvais ça peut-être un petit peu plus intéressant. Mais bon, je n'ai jamais vu un sadique s'arrêter de frapper parce que l'autre lui dit « bah vas-y, je sens même pas ».
J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire. Je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré.
j'ai 10 ans. Des billes plein mes poches, j'ai 10 ans. Les filles, c'est les cloches, j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tape ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la Sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai des prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tarde ta gueule à la récré. Tarde ta gueule.
Voilà, voilà. Donc, je bafouille un peu aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais essayer de terminer mon papier
on
sans
comprend
trop,
très bien.
Sans trop de heurts. Donc, en fait, voilà, la dernière partie, c'est surtout une réflexion personnelle. Donc, où je me dis que le principal de l'éducation se faisant dans l'enfance, éduquer les enfants, c'est l'affaire de tous, des parents, des enseignants, de la collectivité, etc. Mais pour être constructif, il me paraît important de changer certaines valeurs sociétales de base, parce que comment avoir une pratique éducative positive sans sortir de l'esprit de compétition, mettant quelques-uns sur les premières marches et tous les autres se partageant l'espace des moyens, voire des médiocres. Et les médiocres, c'est quoi? Eh ben, des ratés. Et hop, voilà comment on fabrique du handicap social en plus. Tant qu'on fera du tri parmi nos petits bouts pour les faire correspondre à des critères méritocratiques qui sont en train de voler en éclats aujourd'hui, on leur fournira les armes pour taper sur leurs petits camarades, les plus faibles, les plus moches, les plus pauvres ou les plus n'importe quoi d'autre, le handicap n'en représentant que 16%. Alors supprimons la compète à l'école et redonnons-leur le plaisir d'apprendre. Pour ça, il faudrait sortir du savoir en vertical et oui, vertu de la liberté. Ensuite, la meilleure méthode éducative n'existant pas, mais baser la sienne sur le chantage ou la menace, c'est sûrement la plus destructrice à long terme. Détourner l'attention de l'obsession de son chérubin est bien plus efficace et moins source de troubles à l'âge adulte que de le menacer de lui flanquer une rousse s'il ne range pas sa chambre ou de lui donner un bifton parce qu'il a eu 18 en maths. Puis il est temps de sortir de cette épouvantable idée de consumérisme avec lequel on pollue si violemment et si tôt nos petits bouts de choux. La dernière tablette, le jean est spécial et basket de trucs mûches et maintenant l'accès à tout ce que le monde peut vendre et expédier chez toi en 48 heures. Ok, il faut vivre avec son temps et ça rend bien service, je suis d'accord. Mais ce dont je parle, c'est le besoin de possession. Le besoin d'avoir ceci ou cela. Le partage, le troc, le prêt, l'échange ne sont pas réservés à des temps anciens où peu avaient accès financièrement à ceci ou à cela. Mais ces pratiques sont belles et bien d'actualité. Juste pour ne pas étouffer sous une montagne d'objets à moitié cassés. Communiquer sur de vraies valeurs partagées, solides, qui s'appuient sur du concret, tout de suite vérifiable, et tout à coup, il est plus facile de pousser plus loin, en toute cohérence. Et pour moi, c'est ainsi que les différences s'estompent. You remember me as a babe, babe with the power, power of voodoo. Voodoo. You do. My name is the babe. I saw my baby crying for this babe could cry. What could I do? My baby's love had gone and left my baby blue. Nobody knew what kind of magic spell to use. Mine is new. Oh, what we don't tell. Thunder. Dance, magic, dance, 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 dance, magic
could I do? My biggest fun has gone.
J'espère que je ne vous ai pas trop plombé le moral.
Non.
Mais voilà, c'est un sujet d'actualité, il faut en parler.
C'était bien, puis bon, c'est pas parce qu'un sujet est dur qu'on ne va pas l'aborder, justement. Quoi.
Justement.
On a
ouais.
un peu trop tendance à faire de la facilité un petit peu partout. Donc, s'il y a bien un lieu où on peut parler de ça aussi, c'est au bar à chatte.
Exactement.
Et bien, alors, du coup, de nouveau, moi, sans aucun rapport, je vais passer sur quelque chose. Alors. Qui pourrait paraître plus léger, mais qui ne l'est pas en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisque je vais vous parler de la galanterie. Donc forcément, bon, on n'est pas dans le même rapport au niveau émotionnel, mais moi je trouve que ça peut installer des choses. Enfin, on va voir. Donc voilà, moi j'avais un petit son, je crois.
C'est freestyle.
Hein, c'est moi.
Alors, si les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à dire. Foutez la paix à nos corps et à nos plaisirs. La porte, je sais l'ouvrir seule, tout aussi bien que ma gueule, aussi grand que ma gueule. Si les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à dire. Foutez la paix à nos corps et à nos plaisirs. La porte, je sais l'ouvrir seule, tout aussi bien que ma gueule, aussi grand que ma gueule. Si les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à dire.
Donc voilà, merci pour cette découverte. C'est Clément qui m'a fait découvrir ça.
Ouais, très sympathique.
Donc
Oui. Voilà. Et, oui, petit coucou. L'espèce de chorale brestoise. Voilà.
Super chouette. J'ai beaucoup aimé.
Moi, je vais aller habiter à Brest.
Donc voilà, moi je vais faire la meuf qui cherche la petite bête aujourd'hui, comme j'ai pu me l'entendre dire dernièrement lors d'une discussion sur ce sujet. La féministe de service qui n'a vraiment que ça à foutre et qui ose même s'attaquer à nos us et coutumes, nos belles traditions, elle peut pas s'empêcher de les déboîter. C'est un peu comme ça que j'ai l'impression de passer quand j'aborde ce sujet-là qui paraît tellement léger, car nous allons causer de la galanterie. Alors la plupart du temps, je me fais rétorquer que c'est une question de respect. au qui. Mais alors je dis du coup respect de qui, en quel honneur et avec quelle finalité. Donc examinons de plus près quelques définitions. Le Larousse nous dit « courtoisie empressée auprès des femmes, propos, compliments flatteurs adressés à une femme ». Le Centre national des ressources textuelles et lexicales nous dit « disposition à courtiser une femme en vue de la conquérir, comportement traduisant une certaine inclination ». Procédé, présent, propos très aimable qui manifeste l'intention de plaire aux femmes ou de charmer, séduire une femme. Et Wikipédia nous dit « La galanterie est un code de conduite organisé autour de la femme, souvent sous la forme de propos ou compliments flatteurs à l'égard des femmes. Vécue par beaucoup comme une forme de politesse et de savoir-vivre, elle est aussi considérée comme un moyen de séduction. » Elle se présente comme un ensemble de manières développées par un homme en vue de faciliter les déplacements, les mouvements ou l'habillement d'une femme. Elle consiste par exemple à laisser la priorité à la femme sur le seuil d'une porte, à lui céder sa place dans les transports en commun ou à l'aider à porter ses bagages. Plus généralement, il s'agit d'être prévenant et attentionné à l'égard des femmes et de leur témoigner du respect et de la considération. Certains gestes, comme le baise-main, expriment aussi cette déférence de l'homme envers la femme. La galanterie peut enfin s'étendre aux dépenses de sorties mondaines, où l'homme assurera les frais, quelle que soit la situation maritale ou affective du couple. Voilà, voilà. Donc, je suis tombée sur quelques témoignages qui, moi, m'ont fait marrer sur psychologie.com, et où la question du respect lié à la galanterie, de ma part, en prend un coup. Guillaume, 24 ans. Je laisse toujours la femme passer devant. C'est devenu un automatisme. Quand j'y réfléchis, j'en suis assez fier. Même si ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance dans l'absolu, c'est tout de même une preuve de respect à la femme. Il en faut un minimum, non ? Mehdi, 17 ans, être galant, c'est être sympathique. Lui tenir la porte, l'aider à porter un sac, c'est le genre de truc qu'on fait au début. Mais après, on oublie. La dernière fois que j'ai été galant, c'est quand j'ai offert une fleur à ma copine. Mais je sais pas si ça compte, c'était son anniversaire. Ce sont tous des vrais témoignages, j'ai rien bidouillé, hein. Nathalie, 34 ans. La galanterie est une qualité que j'ai envie de retrouver chez un homme, au même titre que la gentillesse ou l'ouverture d'esprit. Mon conjoint n'hésite pas à m'aider en poussant la poussette ou en portant les sacs quand je suis chargée. C'est naturel chez lui. Alors là, Nathalie, je t'arrête tout de suite. Quand ton mec pousse la poussette ou porte des sacs, car tu es déjà toi-même chargée, il t'aide pas. Il fait sa part.
Il fait sa part, hein, exactement.
C'est pas une aide. Donc reprenons. Michel, 56 ans. C'est délicat de défendre la galanterie à une époque où l'on parle quand même beaucoup de parité. Malgré tout, j'aime la pratiquer parce que je trouve que c'est une belle valeur et qu'il serait dommage de ne pas l'entretenir. Mais oui, Michel, il serait dommage de ne pas l'entretenir. Enfin, attends, pourquoi en fait ? C'est quoi le but derrière tout ça ? Alors Jean, 70 ans, nous dit « C'est sans doute une des rares vieilles traditions qui ne se perdra jamais. » Parce que tous les hommes ont naturellement envie de venir en aide, de protéger la femme. Ça fait partie des règles du jeu entre les deux sexes. Et ben voilà, merci Jean, on y est. C'est aussi un signe notoire de différenciation entre les deux sexes, en s'appuyant sur le fait que la femme a besoin d'être protégée. Alors autant je dis pas, sans doute qu'à l'époque des tigres à dents de sabre, quand tu étais entouré de bébé 1, bébé 2 et bébé 3 en tant que femme, que c'était famine dans la steppe et que les fauves du secteur avaient les crocs, ça devait parfois être tranquillisant de voir débarquer Grumpf, ton homme des cavernes de l'époque, avec sa lance, quand la nuit tombait et qu'il n'y avait plus de bois pour le feu. Mais en 2019, franchement, concrètement, est-ce qu'on a besoin d'être protégé ? Et protégé de quoi ? Ou de qui ? Ah, mais attends, de certains hommes peut-être, qui confondent trop souvent notre corps avec une barre de métro. De certains hommes qui vont être irrésistiblement, pulsionnellement attirés par nous si l'on sort tard le soir ou que l'on s'habille court. Donc en gros, on a besoin des hommes pour nous protéger d'autres hommes. C'est ça le truc.
C'est ça le truc, voilà. Ouais.
Et tout ce petit monde souhaiterait pas évoluer une bonne fois pour toutes et arrêter de nous considérer comme de la bidoche ou du tofu fermenté. Franchement, moi je me pose la question. Florence Montreno, qui est historienne et auteure de l'encyclopédie Le XXe siècle des femmes, vient nous éclairer sur ces questions. La galanterie se perd. Comme le respect pour les parents ou le goût des vraies tomates, elle fait partie de ces trésors du passé dont on regrette le déclin. On oublie qu'elle n'a pas toujours existé, qu'elle n'est peut-être qu'une tradition vide de sens. Les femmes sont-elles plus respectées en Pologne où le baise-main est quotidien ? La galanterie se perd. Il y aurait de moins en moins d'hommes galants. On oublie qu'un même homme n'est pas galant avec toutes les femmes. Ni avec la même femme tout le temps. Celui qui m'aide à enfiler mon manteau peut se montrer méprisant avec la dame du vestiaire, tel autre qui m'ouvre la portière de la voiture injurie la conductrice qui le double. La galanterie se perd et selon certains, ce serait de la faute des femmes qui réclament l'égalité. Elles en veulent trop, explique-t-il. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le baise-main du crémier. Il faut choisir. Moi, j'ai choisi. À travail égal, salaire égal. Si un homme qui s'efface devant moi à la porte du bureau n'est pas gêné de gagner 25% de plus que moi pour le même travail, sa galanterie me coûte trop cher. D'ailleurs, quand il s'agit d'une promotion, le plus galant des hommes dira-t-il « Après vous, madame, je vous en prie. » La galanterie a une histoire. Ce nouveau modèle des relations entre hommes et femmes est né dans le sud de la France, au XIIe siècle, avec ce qu'on a appelé ensuite l'amour courtois. Il reposait sur le culte de la dame, l'épouse du seigneur, et sur la discipline du désir masculin. Le jeune chevalier apprenait à se distinguer des hommes du peuple et à respecter une seule femme idéalisée pour mieux servir son seigneur, le véritable maître. Donc oui, la galanterie n'a rien de naturel. Si cette galanterie artificielle se perd, c'est grâce aux femmes, et selon moi, c'est un progrès. Dans le métro, un homme qui tient la porte à une femme est galant, et une femme qui tient la porte à quelqu'un, eh ben, elle est normale, simplement humaine. Ainsi, personne n'a à me faciliter la vie parce que je suis une femme, ce qui est un hasard génétique complet. Je peux prétendre à l'indépendance, à faire des choix de vie indépendants, si je décide de me comporter en objet fragile qui a besoin d'être guidé, escorté et aidé pour de mauvaises raisons. Voilà, c'était Santi Gold avec le morceau Go, qui est une chanson qui dépote et que j'aime beaucoup. Et qui est dans la, la série La Servante Écarlate, que je recommande à chacune et chacun d'entre vous.
Mais la chronique cinéma, c'est tout à l'heure.
Ben voilà, mais ça, c'est pour faire une petite intro. Hein. Donc voilà, juste en conclusion de ce papier, pour enfoncer un petit peu plus le râteau dans le sable. C'est mieux que le
râteau dans la tête.
Je vous invite également à aller lire l'essai de Valérie Ray-Robert, Une culture du viol à la française, qui considère que cette prétendue tradition galante vient aussi parfois conforter la culture du viol. Donc voilà. Écoute, on met une petite virgule.
Bah ouais, on met une petite
virgule.
Allez,
petite virgule.
C'est étrange ce soir. C'est l'ambiance de ce plateau assez étrange. Donc bon, bah voilà, parce qu'on a un petit peu de temps, parce qu'on a vachement bossé. En fait, le mois de février est passé super vite, oui. Et le mois de mars comme un boulet de canon. Oui. Moi, j'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit passé.
Sauf des films.
Voilà. Donc du coup, j'avais envie de faire une petite essai de chronique Cinoche. Donc voilà. Alors cet hiver, je me suis fait un cadeau. Je devrais pas le dire. Mais je me suis abonnée à une plateforme de films en ligne dont je tairai le nom. et donc je vous conseille, si vous êtes amateur de SF et de romantisme, un film de SF romantiquissime qui s'appelle en français Mirage, ou en espagnol Durante la Tormenta. Et alors là, et ben, si vous êtes célibataire, vous allez vous mettre en quête d'un homme, parce que
ou d'une femme,
de romantique, quoi. Voilà. Sinon, on a vu un super film l'autre jour avec Chaussette. On vous conseille.
Au ciné de Saint-Aff,
il passe plus à Saint-Aff, c'est dommage. Il faut pousser un petit peu plus loin pour le voir. Ça s'appelle Rebelle. C'est excellent. C'est très drôle. C'est hilarant. Les messieurs rient aussi, un peu plus jaunes que les dames, mais ils rient aussi. Franchement, c'était super.
Un petit pitch.
Bah oui. Alors, sans spoiler. Oui. Sans trop spoiler, en fait, trois nanas qui se retrouvent dans une entreprise où elles passent leur journée à la chaîne à emballer des harengs
dans des
boîtes. En fait, se retrouvent prises dans une tourmente et donc elles sont obligées de cacher le corps de leur patron. Et les raisons et la façon dont elles s'y prennent, je ne vous le souhaite pas, c'est très très drôle. Je vous conseille d'aller le voir. Sinon, j'ai vu aussi pour toujours les amateurs de SF, toujours sur cette fameuse plateforme, donc je ne nommerai pas, ça s'appelle Osmosis. Et alors, c'est une série française. La première saison a été bouclée, donc on attend la deuxième saison avec impatience. Et le petit pitch d'Osmosis, c'est un frère et une sœur qui sont des super matheux, des super génies de l'informatique, inventent un système pour que chacun d'entre nous puisse trouver l'âme sœur. Sauf que dans leur petite tête de geek, ils ont juste oublié une chose, c'est que l'amour est compliqué. Et le cœur humain aussi. L'amour. Mais ça vaut vraiment le coup.
L'amour n'est pas un algorithme.
Voilà, exactement. Ben voilà, à moins que toi tu aies envie de parler d'un autre film. Moi j'ai fini ma petite chronique.
Oui, bah après j'allais conclure en rappelant les petites informations d'usage et puis quelques petites infos qui sont venues là se disséminer à droite à gauche. Donc j'avais envie de vous parler. On met une petite virgule.
Voilà, oui, parce qu'en fait il n'est pas très attentif.
S'il vous plaît. Non, ça va. On est à la cool, hein.
Ouais.
On est tranquille. Tout à fait des propositions de films, de séries, et pour suivre un peu dans la même veine en mode proposition, vous allez découvrir ou pas si vous voulez. Moi, je vous invite à les découvrir, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les podcasts, un podcast à soi sur la page www.arteradio.com ou qui parle des féminismes, de genre, d'égalité, chaque premier mercredi du mois. Alors concrètement, ils sont tous très chouettes, il doit y en avoir 15 actuellement qui sont sortis. Et j'ai écouté le numéro 12 récemment qui s'intitule « Les femmes sont-elles des hommes comme les autres ?» et qui m'a personnellement bien plu. Ah, je vois que tu prends des notes.
Je prends des notes tout de suite.
Je t'enverrai un testo si tu veux. Et alors sinon, un petit truc un petit peu plus chaud, alors que je n'ai pas encore testé, mais qui me paraît très prometteur. Ne me demandez pas comment j'en suis arrivée là, je ne sais pas moi-même. Mais j'ai entendu parler, et je suis allée voir, un site de podcast érotico-porno à destination des femmes qui s'appelle Vox, VO3X. ça note. c'est gratuit. Donc sur www.voxvo3x.org, où donc ce sont voilà, des podcasts à destination des femmes, fait par des femmes. Donc c'est voilà, des petits sons, des paroles, des histoires, du bruitage. Et en plus, il y a un sacré processus créatif derrière. Donc j'ai à peine commencé à aller découvrir ça.
On en reparlera peut-être le mois prochain.
Ça pourrait être l'occasion d'en faire une chronique, voire de passer des petits extraits en tout bien, tout honneur, selon l'heure de diffusion. Sinon, on trouvera autre chose pour les passer. Donc voilà. Et puis, c'est tout.
Voilà. C'était une courte émission, mais ma foi...
Alors ça y est, maintenant, j'ai pris les horaires, donc là, cette fois-ci, je peux le dire. Donc, merci à toutes et tous
qui
nous ont suivis ou qui vont nous suivre. Donc, la première diffusion d'avril était aujourd'hui en direct, donc premier mardi de chaque mois, comme d'habitude, à 19h. Vous pouvez nous retrouver en écoute, en direct, en deuxième diffusion le mercredi suivant, c'est-à-dire demain à 14h. Et la troisième diffusion, c'est le samedi d'après, donc samedi prochain, 16h, à 16h. On est toujours aussi en podcast ou en écoute directe sur le www.radiosaintafrique.com. Et aussi, je ne sais pas si on l'avait déjà dit, mais on a un Facebook où tu peux nous écrire des trucs ou pas sur le www.facebook.com/barachat, avec un S.
Voilà.
Baracha. Voilà. Donc, on espère que cette émission vous a plu. Nous a fait plaisir.
Hein. Ouais.
Comme d'hab, pour le mois de mai, on ne sait toujours pas.
On verra. Oui, mais on va peut-être parler un peu de porno.
Peut-être qu'on sera allé sur le site Vox.
Voilà.
Explorer tous ces petits cadeaux-là.
En tous les cas, merci. Merci à Clément.
Merci à Clément pour la tech. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés.
Voilà. À très, très bientôt.
On vous fait des gros bisous.
Bisous. Ciao, ciao.
On travaille quelquefois, ils ont encore le toupet pour nous donner autant de, je sais pas comment on dit, paye ou gain, je sais pas quoi, d'argent pour le travail qu'un homme peut-être ferait même moins bien.
T'es pas d'accord avec l'idée qu'ils ont du mariage?
Non, parce qu'on est quand même pas les chiens.
Pour ma part, c'est pas du tout comme les autres, j'aimerais bien être un garçon, parce que je déteste les robes, mais j'aime bien les pantalons.
Quand on te dit qu'un homme peut voter, puis une femme peut pas?
Non, ça c'est injuste alors. Demoiselles, elles peuvent dire leur mot aussi.
Parce que les
hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, les dames, c'est comme si elles comptaient pour rien.
Est-ce qu'il t'arrive parfois de regretter de ne pas être une fille?
Quelquefois, oui, un petit peu.
Pourquoi?
Parce que quand je pense qu'on doit aller au service militaire, je sais pas, puis qu'on nous oblige à y aller.
Moi, personnellement, j'aimerais pas tellement être une fille. Enfin, si je l'étais, j'aimerais pas être un garçon.